19h30 sur RFI et ici à Paris, l'heure est au débat.
Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
En 2010, l'essayiste français Pierre Rabhi développait le concept de sobriété heureuse. Eh bien, près de 15 ans plus tard, c'est un concept désormais qui s'impose face aux défis climatiques. Notre question ce soir, est-ce que la transition écologique peut être heureuse? Car il va falloir faire des efforts pour atteindre les objectifs environnementaux. Comment vivre positivement ces efforts? Est-ce qu'on peut passer d'une sobriété subie à une sobriété assumée? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Xavier Briffaut, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences sociales et philosophie de la santé au CNRS. Face à vous, Guillaume Compin, bonsoir.
Bonsoir.
Chargé de plaidoyer sur les sujets climat pour l'ONG Oxfam France. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Julien Vidal.
Oui, bonsoir.
Créateur du podcast et des ateliers 2030 Glorieuses, vous allez nous en parler. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, la transition écologique, on en parle, évidemment, elle est en cours. Je vais donner un chiffre. Hein, entre 2005 et 2021, en France, le PIB a augmenté de 16% et dans le même temps, l'empreinte carbone a baissé de 18%. Guillaume Compin, quel sentiment est-ce que vous avez sur la manière dont la population perçoit cette transition ?
Je pense que l'essentiel de la population mondiale déjà subit les impacts directement du changement climatique. Je pense par exemple à la Corne de l'Afrique qui subit depuis 6 ans une sécheresse historique avec des mélangée en plus à des inondations récemment. Donc il y a des récoltes qui sont décimées, il y a des poches de famine dans certaines régions, notamment en Somalie. Donc à travers le monde, déjà beaucoup de personnes subissent parfois de façon dramatique le changement climatique. Et de manière générale, y compris en France, la perception de l'opinion sur les catastrophes climatiques, elle est forte. On est d'ailleurs nous-mêmes touchés par des méga-feux, mais aussi par des inondations, comme on l'a vu récemment dans le nord de la France. Et en plus de ça, l'opinion est largement consciente de l'enjeu à la fois de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'adopter des pratiques plus sobres. Mais cet enjeu doit être équitable, c'est-à-dire on doit répartir équitablement l'effort. Et je pense que c'est là ce qu'on observe, en tout cas, le principal enjeu.
Il y a un lien direct, selon vous, dans la population, entre les catastrophes climatiques que vous avez évoquées et la nécessité de réussir cette transition?
Beaucoup de personnes font le lien directement, mais encore une fois, la responsabilité déjà des personnes dans les émissions de gaz à effet de serre n'est pas du tout identique. Par exemple, si vous faites partie de la moitié des Français les plus modestes, vous émettez 10 fois moins de gaz à effet de serre chaque année que les 1% les plus riches, et à l'échelle mondiale, c'est encore plus frappant, c'est-à-dire que les 1% les plus riches de la population, à travers notamment leur transport ultra carboné, etc., émettent l'équivalent des 2/3 de l'humanité réunie. On voit bien qu'il y a des inégalités très fortes d'émissions. Et donc, clairement, non seulement les responsabilités ne sont pas les mêmes, mais en plus, les impacts sont d'autant plus forts envers les populations qui sont les moins responsables du changement climatique. Par exemple, les 10 pays les plus vulnérables au changement climatique à travers le monde, on pense par exemple au Niger, au Kenya, au Guatemala, sont responsables de 0,13% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit que c'est quasiment anecdotique. Et pourtant, sont touchés de plein fouet avec des centaines de milliers de personnes qui sont à la fois contraintes, par exemple, de quitter leur lieu d'habitation, sont touchées par des impacts sur leur récolte, sur leurs moyens de subsistance. Donc on voit bien ici, encore une fois, un enjeu d'inégalité à la fois planétaire et au sein même de la population.
Xavier Briffaut, quel lien on peut faire entre justice sociale et nécessité de cette transition écologique ?
Justice sociale, en fait, alors comme vous venez de le dire, en fait, la répartition au sein de la population de la contribution aux apports de consommation énergétique, elle est très très inégalitaire, et les conséquences sur les populations sont aussi très inégalitaires. Mais j'aimerais peut-être rebondir sur la question que vous aviez posée déjà sur comment la population vit cette situation. Parce qu'en fait, la question de la transition écologique, c'est une question qui engage de façon extrêmement grave la santé des populations, potentiellement même de façon fatale pour l'humanité. C'est la deuxième fois en quelque quelques années qu'on est confronté à ce risque-là, puisque ça a été un peu le même genre de problème avec le Covid. On a eu un risque majeur qui est survenu, qui potentiellement engageait la santé de la totalité de la population mondiale et qui a donné lieu à des réactions politiques de santé publique extrêmement importantes, mondiales, mais aussi dans des territoires nationaux. Et ça a eu un impact extrêmement important sur la santé, bien évidemment, infectiologique, ouais. Mais aussi sur la santé mentale. Et donc, on a une santé mentale des populations qui est aujourd'hui extrêmement dégradée en France, mais globalement dans le monde. On a un doublement, voire un triplement dans certaines situations de troubles anxio-dépressifs, de syndrome de stress post-traumatique, une aggravation globalement des pathologies psychiatriques qui ont décompensé, qui sont apparues du fait du caractère extrêmement stressant de la situation. Donc là, on a un deuxième élément très très grave, potentiellement.
Et qui s'inscrit dans le temps.
Et qui s'inscrit, là pour le coup, vraiment dans le temps très très long. Donc la transition écologique peut-elle être heureuse? J'ai envie de dire qu'il faut qu'elle le soit.
Ça on va y venir. Parce que... D'abord, je voudrais évoquer justement, et avant de donner la parole à notre troisième invité, Julien Vidal, vous faire réagir Guillaume Compin, quand Xavier Briffaut évoque l'impact du Covid, l'impact des efforts fournis pour parvenir à cette transition écologique, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut évaluer les efforts à fournir dans les années qui viennent pour la population? Parce qu'ils vont être de plus en plus importants.
Oui, les efforts vont être considérables. C'est évidemment réduire largement les émissions liées aux transports mondiaux. Donc ça peut être dans les déplacements du quotidien, réduire l'usage des voitures thermiques. Ouais. Ça peut être également dans les mobilités internationales, type l'avion, qui va clairement devoir réduire. Ça va être également dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment dans les pays les plus riches, on est basé sur une alimentation qui est très carnée, donc à base de viande, etc. Et malheureusement insoutenable, en tout cas dans des proportions industrielles, c'est-à-dire qu'on peut manger moins et mieux de viande, mais dans tous les cas, il va falloir réduire les volumes consommés. C'est également, évidemment, s'adapter au changement climatique. Ça, c'est un enjeu majeur qui, d'ailleurs, est largement sous-traité et sous-évalué par de nombreux décideurs politiques. On voit, par exemple, en France, qu'il y a plusieurs plans nationaux d'adaptation qui ont déjà été déployés, mais qui, en réalité, ne sont pas du tout structurels, manque de cohérence dans les mesures. Là, on est dans une période où on va le réviser. Ouais. On attend beaucoup du gouvernement en France, mais dans de nombreux pays, les plans d'adaptation restent encore très très limité.
Puisqu'on parle de la France, en écho à ce que vous dites, je vais donner un petit chiffre. L'empreinte carbone des Français aujourd'hui, on estime c'est 9,2 tonnes équivalent CO2, donc ça c'était en 2022. Il faudrait passer de 9,2 tonnes pour se conformer à l'accord de Paris à 2 tonnes. Donc il y a un effort considérable qui va être demandé. Ça va affecter les populations.
Oui, bien sûr, les efforts vont
être... Parce qu'on parle de transition heureuse, on y vient.
Exactement, les efforts vont être à fournir vont être considérables. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que les efforts ne seront pas fournis de la même manière entre tous les citoyens et les citoyennes. Vous avez une grande partie de la population mondiale qui, en réalité, est déjà en dessous des 2 tonnes d'émissions de CO2 par an. Donc là, il s'agit plutôt, au contraire, de permettre à ces populations, par exemple, d'avoir un meilleur accès à l'énergie. On sait que, par exemple, en Afrique, 600 millions de personnes n'ont pas un accès régulier à l'énergie. Et puis, évidemment, que même dans des pays, dans les pays les plus dits développés, les plus industrialisés, comme la France, encore une fois, certaines personnes émettent beaucoup plus de CO2 aujourd'hui.
Ça veut dire que ces personnes-là vont être visées en premier lieu par les dirigeants? Ils vont devoir drastiquement
en tout cas, selon nous,
produire leurs émissions de gaz à effet de serre.
C'est important que ces personnes, justement, fournissent davantage d'efforts, puisqu'elles ont des conditions de mobilité, de logement qui sont beaucoup plus favorables que d'autres segments de la population. Ouais. On sait par exemple qu'en France, environ 12 millions de personnes sont affectées par la précarité énergétique, c'est-à-dire parfois souffrent du chaud, du froid dans leur logement, ont du mal à régler leurs factures d'électricité ou de gaz. Environ le même nombre de Français et de Françaises sont en précarité mobilité, c'est-à-dire de même, soit n'ont pas accès à des moyens de transport, notamment des transports en commun, soit n'ont pas les moyens financiers de s'adapter. C'est pas sur ces personnes qu'il faut faire reposer le coût de l'effort. Mmh. D'ailleurs, on voit très bien que soit avec la crise des gilets jaunes il y a quelques années, ou plus récemment avec la crise agricole aussi, que par exemple certains agriculteurs disaient mais en fait on n'a pas les moyens déjà de s'en sortir. C'est pas à nous de faire l'essentiel de l'effort. Et d'ailleurs pointer plutôt du doigt les super profits réalisés par des géants de l'agroalimentaire, le fait que certaines marques de distributeurs ou grandes surfaces captent énormément de valeur dans ces chaînes en fait de valeur qui sont mondiales. mondialisée. Donc en fait, c'est, encore une fois, c'est répartir l'effort de manière juste entre les différents citoyens.
En tout cas, l'éco-anxiété commence à monter dans ce débat et dans ce studio. Julien Vidal, vous qui êtes créateur du podcast et des ateliers 2030 glorieuses, face à toutes ces perspectives qu'on vient de dresser, face à tous ces efforts qui vont devoir être fournis, on évoque ce concept de transition heureuse, mais c'est un oxymore. Là, une transition heureuse, quand on voit tous ces efforts à fournir, oxymore, j'entends deux mots complètement antinomiques.
Oui, c'est vrai que je vous entendais depuis tout à l'heure, mais je suis désolé de me dire qu'effectivement, si on réfléchit comme ça, on ne va jamais y arriver parce qu'on continue à être dans le sillon du surconsumériste avec la notion de pays développé étant nos pays occidentalisés, surtechnologiques, surconsommateurs, où on est tous chacun dans notre couloir, dans notre appartement, laisser mourir nos anciens dans les plans de retraite. Et en fait, on se rend compte qu'on est croissant plein de choses, mais on ne veut même pas le qualifier comme ça et on a l'impression qu'on va devoir faire des efforts. Alors qu'en réalité, une société plus écologique, vous parliez des 2030 glorieuses et que c'est quelque chose que j'explore depuis longtemps, bah les 2030 glorieuses sont déjà là et c'est une société avec plus de liens, avec plus de temps pour faire les choses qui nous animent profondément,
c'est-à-dire
plus d'égalité, plus d'autonomie, etc. etc. Et donc, en fait, on n'est pas perdant, on n'a pas
c'est, à dire, c'est quoi les 2030 glorieuses dont vous êtes le
créateur? 2030 glorieuses, c'est un podcast qui me permet de répondre à la question et qu'est-ce qu'on fait comme métier pour justement nous remettre à l'intérieur des limites planétaires et au passage recréer du lien avec nous-mêmes et avec les autres. J'en ai identifié déjà plus de 120, 130 et aujourd'hui c'est un format d'atelier dans lequel on rêve d'une société plus durable, solidaire et joyeuse en se disant bah, tiens, à quoi ça ressemblerait une société où on s'y serait vraiment mis avec ambition.
Et quand on vous répond, vous êtes un utopiste?
On me dit, mais moi je dis merci.
D'accord.
Parce que les utopistes, ce sont toujours ceux qui ont provoqué les changements dont on a l'impression qu'ils sont complètement banalisés aujourd'hui, que ce soit la sécurité sociale, les avions qui volent dans le ciel, etc. etc. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Il faut toujours partir d'une utopie pour vraiment provoquer un changement. Et en même temps, je pense que l'utopie, elle permet le pas de côté nécessaire qui nous permet de sortir un peu la tête de l'eau et de re-questionner nos valeurs, de re-questionner la notion de développement. Et je pense que c'est seulement si on s'autorise à non pas réduire, limiter, mais à carrément bifurquer et en fait redonner de la valeur à d'autres choses qui en ont perdu, mais qui en avaient il y a quelques décennies en arrière, que là, en fait, on inversera complètement le vocabulaire et on se rendra compte que ce n'est pas des efforts qu'on a à faire pour arrêter d'être derrière des écrans, manger de la nourriture sur-industrialisée et transformée, mais au contraire, une envie d'être plus autonome, d'être plus connecté à notre territoire, de mieux savoir faire les choses, de retrouver le plaisir du goût, du lien. Et en fait, ça, je pense que quand on donne aux Français la possibilité de se dire « imaginez à quoi ressemble un monde meilleur », ils s'y projettent assez facilement et avec envie, avec joie. Et c'est pour ça que la question du bonheur, elle me taraude un peu, et notamment avec votre débat, parce qu'en fait, si on se dit que le bonheur, c'est exactement comme on le vit en 2024, à savoir remplir nos étagères de tout un tas de trucs, de machins pour soi-disant être heureux, alors effectivement, là, la contrainte écologique fait que ça ne va jamais marcher. Si on se rend compte qu'au contraire, on va vider nos vies et les remplir de plein d'autres choses, et je le dis en conscience, moi, après avoir vécu en Colombie, aux Philippines, dans des bidonvilles et dans des considérations où effectivement, la frugalité heureuse, c'était même plus que de la simplicité volontaire, je me rends bien compte qu'en réalité, il y a plein de choses qui nous attendent et qui en réalité sont aussi déjà là, et ça, c'est important de le dire, parce que toutes les personnes, et je termine avec ça, les personnes à qui je donne les paroles en 2030, elles ont toutes ce même fil conducteur, celle d'être profondément heureuses, d'être bien dans leur basket avec le sentiment qu'elles sont au bon endroit au bon moment, même si effectivement on devait le mesurer avec nos vies mentales, elles ont sans doute moins de trucs, d'argent sur leur compte en banque, mais c'est pas ça qui compte. Comme disait ma grand-mère, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière.
Bien sûr, la liaison téléphonique est pas parfaite, on va essayer de la régler, mais que nous dit la société finalement? Je vais vous poser une question avant de repasser la parole, mais que nous dit la société? Elle prône ce que vous prenez ou ce qui est en train de se passer? Je fais écho à cette tribune dans The Conversation. Comment promouvoir des formes de consommation plus sobres sans qu'elles soient considérées comme une régression sociale?
Vous avez raison, on sort de décennies de messages où on nous disait qu'il fallait consommer pour être heureux et on a mélangé le confort avec le bonheur. Donc il faut déconstruire tout un tas de rêves et les 2030 glorieuses, elles visent à ça justement, reterritorialiser nos rêves et au moment où on change d'air, on change de promesse. Et je pense que c'est intéressant de se dire qu'on va aussi faire que nos promesses elles soient à taille plus humaine et aussi à qui nous permettrait de reprendre la place parmi les vivants. Donc je pense qu'il y a effectivement, vous avez raison, une expérimentation à faire de ces nouvelles manières d'être heureux, mais aussi une déconstruction, un esprit critique à avoir vis-à-vis de toutes les publicités qui nous disent qu'il faut partir à l'autre bout de la planète ou avoir une nouvelle promotion, je ne sais pas quoi, ouais. Pour soi-disant être heureux, alors qu'en réalité, l'être humain s'habitue à tout, et ça, c'est une course vaine, et on le sait d'une certaine manière un peu tous dans nos pays occidentaux.
Mmh. Voilà, la balle, clairement, Xavier Briffaut, elle est dans le camp des pouvoirs publics. Effectivement, en écho à ce que dit Julien Vidal, c'est pas un petit mouvement, la sobriété heureuse, ou l'idée que la transition peut être heureuse, c'est la question qu'on pose ce soir. Il y a 80% des Français disent qu'ils pourraient être heureux dans un monde plus sobre.
Oui, mais c'est une problématique de transition et donc d'accompagnement du changement, et d'un changement qui est absolument majeur. Donc tout changement doit être accompagné. Et là, comme il touche l'ensemble de la société, l'ensemble de nos comportements, il va concerner quelque chose qui est profondément ancré en nous. Parce qu'en fait, la société nous façonne en tant que personne, elle nous façonne même en tant que corps. C'est-à-dire notre rapport au monde, il est très profondément structuré, d'un point de vue moteur, d'un point de vue perceptif, d'un point de vue des intentions, de la manière de voir le monde, d'entrer en relation avec les autres, par les schémas sociaux dans lesquels on a été éduqué et plongé. Donc il va falloir les modifier, et tout ceci va prendre énormément de temps. Et pour que ça puisse fonctionner, il faut que ça soit un aller vers, c'est-à-dire quelque chose qui aille vers un positif, plutôt qu'un s'éloigner d'eux, c'est-à-dire quelque chose où on va rejeter, éventuellement même sous forme de contrainte ou de coercition, un modèle soit dont on ne veut plus, soit qu'on ne peut plus soutenir. Donc il y a une problématique d'accompagnement de cette transformation. Et dans les comportements humains, contrairement à ce que parfois on entend quand même, la part de responsabilité individuelle et la part d'autonomie individuelle, elle est relativement faible. Ouais. Beaucoup de nos comportements sont contextuellement déterminés, socialement déterminés, sont déterminés par les structures sociales, et donc il est effectivement extrêmement important d'agir sur le contexte. Donc le rôle des politiques publiques, du politique en général, pour moi, il est absolument majeur. Et cette tentation qu'on a parfois de responsabiliser à outrance les individus en les chargeant de la nécessité de se transformer eux-mêmes pour avoir un impact sur un système qui les dépasse extrêmement largement, ça c'est très anxiogène, ouais. C'est très culpabilisant, oui. Et c'est probablement pas efficace.
Guillaume Compin, vous qui êtes chargé de plaidoyer sur les sujets climat pour Oxfam France, vous êtes en contact justement avec ces pouvoirs publics. Comment faire avec ces voix aussi dissonantes quand on dit à la fois c'est la fin de l'abondance, ce qu'avait dit le président français Emmanuel Macron, et en même temps, il faut relancer la consommation parce que c'est la crise de la dette et il y a des déficits publics qui sont complètement à la dérive.
Alors déjà, on constate une incohérence effectivement dans les discours. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une urgence à freiner, et donc la croissance de manière... si vous voulez, la croissance, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire accroître le PIB, pourquoi pas, mais pourquoi faire? Et là, je rejoins ce que disaient les autres intervenants. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut privilégier les besoins essentiels de la population et des populations. C'est-à-dire, évidemment, l'accès à la santé, à l'éducation, à des choses qui sont basiques, mais qui passent parfois au second plan. Et puis, c'est effectivement trouver les moyens de le faire. Et comme le disait Xavier Briffaut, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut demander aux gens de faire des efforts, c'est important, on doit tous et toutes faire des efforts, mais on doit avoir les moyens de le faire. Et donc, il faut investir, et ça c'est notamment le rôle de l'État, dans des infrastructures, par exemple, publiques de transport en commun, je le répète, mais c'est essentiel, revitaliser pardon, le train, des plans vélos, il y a des choses qui sont faites, mais qui doivent être beaucoup plus massives. Et en fait, pour trouver cet argent, il y a des moyens très simples qui, en plus, rétablissent une forme de justice et d'équité, c'est-à-dire, par exemple, taxer les plus grands pollueurs et notamment les plus riches pollueurs. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fonction de notre niveau de vie et aussi les grandes entreprises, ont un impact majeur sur la planète. Donc en fait, c'est là qu'on doit aller chercher l'argent parce qu'il existe et en plus, il y a une responsabilité qui est particulièrement forte. Ça peut passer par exemple par taxer les super profits des grandes multinationales. On pense par exemple à Total Energy qui a réalisé des milliards et des milliards de dollars de bénéfices l'année dernière et l'année d'avant aussi grâce à la crise de l'énergie qui touche des millions de personnes à travers le monde, il y a une manne financière colossale à aller chercher chez, par exemple, des énergéticiens comme Total Energy. C'est aussi le cas, par exemple, sur des individus qui sont très riches et qui bénéficient largement de cette surconsommation et qui, par exemple, pourraient être taxés. On parle, par exemple, Oxfam défend la réintroduction, d'impôts sur les plus riches, par exemple une wealth tax, impôt sur la richesse, qui en France pourrait se traduire par l'ISF, qui avait été supprimé par Emmanuel Macron, qui devrait, selon nous, être rétabli, et pourquoi pas avec une composante climatique, c'est-à-dire qu'en gros, il y aurait une sorte de pourcentage spécifique si vous polluez davantage à travers votre consommation. On pense que c'est important, et il y a des milliards d'euros, de dollars à aller chercher de ce côté-là.
La transition écologique peut-elle être heureuse? La question qu'on pose ce soir, nos trois invités, Guillaume Compin, que l'on vient d'entendre, chargé de plaidoyer sur les sujets climat, pour Oxfam France, Xavier Briffaut, chercheur en sciences sociales et philosophie de la santé au CNRS, et Julien Vidal, créateur du podcast et les ateliers 2030 Glorieuses. Alors, Guillaume Compin a détaillé finalement la manière d'atteindre, de réussir, cette transition écologique. Xavier Briffaut, est-ce qu'on peut dire que cette transition sera réussie si elle est heureuse finalement?
Bah, c'est-à-dire
donc supportée par la population.
C'est-à-dire qu'elle sera heureuse ou elle ne sera pas.
D'accord.
Bah oui, ça me paraît assez clair parce que, comme je le disais en introduction, l'état de santé mentale de la population est très très dégradé. Or, on est dans une problématique de résilience, comme on l'appelle classiquement. C'est-à-dire qu'on a nécessité d'avoir des personnes, des populations, des collectifs, des systèmes publics, politiques, etc., qui fonctionnent, qui sont capables de s'adapter. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de générer de la motivation, de l'énergie. Si on a 20% de la population qui est dépressive et qui ne souhaite plus vivre parce qu'il n'y a plus d'avenir, ne plus faire d'enfants, abandonner son travail, ce qui est le cas dans une certaine tranche de la population, en particulier chez les jeunes, y compris chez les CSP++, des très grandes écoles françaises, qui ont du mal à s'investir dans l'avenir. Si on a ça, on ne pourra pas mettre en place les actions dont je pense qu'il ne faut pas effectivement les appeler des efforts. Il faut les appeler des
changements. C'est comme ça que c'est présenté. C'est pour ça qu'il y a un changement profond de mentalité des pouvoirs publics auxquels vous appelez. Vous y croyez?
Oui, oh bah, j'ai besoin d'y croire parce que sinon je pense que ça va aller très très mal. Il ne faut pas appeler ça des efforts. Il faut appeler ça des modifications qui ont des bénéfices qui parfois vont être immédiats. Par exemple, l'activité physique à laquelle on appelle avec le vélo ou avec la marche, etc., a des bénéfices immédiats sur la santé mentale, sur la santé tout court. Or, une grande partie des problématiques de santé que rencontre la population, c'est lié à l'inactivité. Si on modifie les architectures urbaines de façon à ce qu'elles deviennent plus propices aux mobilités qu'on appelle douces, en tout cas non consommatrices d'énergie, ça aura aussi immédiatement un retour positif sur la santé des populations, sur leur motivation, sur leur état de forme, sur la possibilité de rentrer en contact les uns avec les autres. Donc ça a des bénéfices immédiats. Je pense que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses, et même pas les présenter d'ailleurs, les agir directement. C'est-à-dire modifier directement les architectures urbaines, et ça va modifier les comportements des populations au sein de ces contextes.
Julien Vidal, pour qu'elle soit heureuse, cette transition, il faut qu'elle soit assumée. Pour qu'elle soit assumée, il faut qu'elle soit choisie. Pour qu'elle soit choisie, il faut qu'elle ne soit pas subie. Comment mobiliser les classes populaires? Et on parle des inégalités, en écho à ce que disait Guillaume Compin. Quand la perspective annoncée n'est plus celle du progrès, mais celle de la précarité énergétique et de la décroissance sous couvert de sobriété. Ça, c'est 5 économistes atterrés qui ont publié une tribune la semaine dernière dans Le Monde.
Ouais, je pense que vraiment un enjeu majeur dans la manière de présenter cette transformation à venir, parce que là, si effectivement on continue à utiliser ces termes, on reste inscrit sur la tendance économique classique, et en fait on porte forcément un immense coup à toute désirabilité sur ces sujets, parce qu'on a l'impression qu'encore une fois ce seront aux plus pauvres de faire les efforts, et qu'en réalité ils pourront de fait jouer la promesse de notre siècle passé, qui était de dire qu'on allait sacrifier notre vie professionnelle pour acquérir un salaire et acheter des trucs qui allaient nous rendre heureux. C'est dans nos sociétés occidentales que c'est comme ça, mais en fait pas que, parce que je vous disais avoir travaillé en Colombie ou aux Philippines, quand je travaillais dans les bidonvilles pour permettre aux jeunes les plus exclus d'avoir un salaire décent, la première chose qu'ils faisaient avec leur salaire décent, c'était de s'acheter un iPhone. Et donc en réalité, on se rend compte que la promesse d'appartenir grâce à notre consommation, elle est mondialisée. Et donc je partage ce que vous dites sur le fait de forcément avoir un vrai plan de transformation à l'échelle de l'État, Je pense que ce ne sera pas suffisant. Il va falloir aussi qu'on soit accompagné par toutes les personnes qui ont dans leurs mains des leviers de soft power. Je pense notamment à la publicité des entreprises, mais aussi aux grandes chaînes et promoteurs du cinéma, qu'ils soient le Hollywoodien ou pas que, mais qui nous redonnent en fait une autre lumière, un autre éclat à des valeurs qui semblent passer. Et qu'on arrête même d'appeler la transformation à venir sobriété, mais qu'on la nomme plutôt de frugalité, c'est-à-dire de faire avec les fruits qu'on a à notre disposition et ensuite de faire preuve de créativité, de justesse, de justice pour que ces fruits, on les utilise au mieux et qu'ils remplissent nos vies différemment. Je pense que c'est vraiment une question de comment le présenter, avec quels objectifs. Mais tant qu'on
uniquement de comment le présenter, il n'y a pas des intérêts, c'est uniquement une manière de présenter, il n'y a pas des intérêts qui sont discordants.
Non, vous l'avez dit,
économie, il y a une écologie.
Transformation économie politique, mais en fait, j'allais terminer en disant ça. Tant que l'économie sera l'alpha et l'oméga de notre société et que nous, les êtres humains, nous sommes au mieux que des ressources humaines, ben, en fait, on n'arrivera pas à s'en sortir vraiment. Ouais. Il y a un changement d'air qui fait qu'on doit aussi remettre l'économie à sa juste place, c'est-à-dire juste un moyen de créer du lien entre les êtres humains pour qu'on vive de manière décente. Terminer les PIB et consorts, il faut, et ça, c'est un vrai enjeu, je pense, des années à venir, inventer d'autres indicateurs pour qu'on arrive à justement mesurer mieux cette frugalité et la rendre désirable par les chiffres qu'on arriverait à transmettre et les données et les objectifs qu'on arrivera à transmettre pour tous et toutes.
Ouais. Guillaume Compin, Xavier Briffaud disait la transition sera heureuse ou ne sera pas, mais là c'est un virage à 180 degrés auquel il faut faire face. Est-ce que vous y croyez dans le peu de temps qu'il reste finalement pour sensibiliser les pouvoirs publics en premier lieu, les mentalités également, pour atteindre les objectifs climatiques?
Ah, mais la sobriété, c'est essentiel, c'est même la première mesure pour réussir à atteindre les objectifs.
Je ne parle pas de sensibiliser à la sobriété, mais surtout sensibiliser à l'utilité, à la nécessité, pour qu'elle soit perçue positivement.
Bien sûr. C'est un enjeu, mais les deux vont de pair, en fait. C'est-à-dire, on peut évidemment agir sur les investissements, sur financer cette transition de manière juste, pour que les gens comprennent qu'en fait, on ne va pas demander aux plus pauvres de faire les efforts, mais aux plus riches. Ça, c'est essentiel, justement, pour ne pas la rendre soi-disant punitive, alors qu'en réalité, l'écologie punitive, c'est surtout celle qui n'existe pas, c'est-à-dire le fait de maintenir le système tel qu'il est, avec tous ses impacts sur la santé, sur les vies humaines, etc. Et par ailleurs, on peut rendre cette sobriété désirable. Et d'ailleurs, par exemple, Oxfam valorise énormément, par exemple, tout ce qui va être la seconde main, c'est-à-dire qu'on a des magasins où on vend de la seconde main pour montrer qu'il est possible d'être à la mode, de vouloir, même si en soi, la mode n'est pas forcément un horizon désirable, mais en tout cas, de dire on peut s'acheter des beaux vêtements, mais qui ont déjà été utilisés, pour limiter l'impact. Il y a des associations super comme Halte à l'obsolescence programmée qui agissent énormément aussi sur l'imaginaire pour montrer que l'économie circulaire est un horizon qui est souhaitable. Et puis, comme le disait Julien Vidal, évidemment que des modes de vie basés sur le lien, sur la connexion à l'autre sont essentiels et sont beaucoup plus souhaitables. Et je pense que cet horizon, il est désirable et il peut embarquer des milliers de personnes là-dedans.
Eh ben, on va terminer avec ce mot d'optimisme. Et en tout cas, c'est un bel horizon, mais on a bien compris que les voies restaient dissonantes et qu'on est peut-être à une transition, justement, vers cette transition. L'exemple de du textile est intéressant parce que les jeunes, par exemple, sont les premiers à consommer de la fast fashion et en même temps sont aussi parmi les plus engagés en faveur du climat. Donc cette transition heureuse a sans doute de l'avenir, même s'il faudra encore un peu de temps. Merci beaucoup à vous trois. Guillaume Compin, chargé de plaidoyer sur les sujets climat pour Oxfam France. Xavier Briffaud, merci, chercheur en sciences sociales et philosophie de la santé au CNRS, et Julien Vidal qui était en ligne avec nous, créateur du podcast et des ateliers 2030 Glorieuses. Merci à vous, merci à Florence Ponce et Arnold Assewa qui était à la préparation de ce débat, et merci à Valentin Blanc à la réalisation. 19h58 ici à Paris, dans moins de 2 minutes, le journal de 20h, puis le décryptage avec Stéphane Genest ce soir, le Soudan où la guerre régionale s'internationalise. Voilà qui nous emmènera tout naturellement vers la première édition d'Afrique Soir à 20h30. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
De quoi allez-vous nous parler ce soir Sylvie?
Alors de la démission de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, démission annoncée après le report inédit de la conférence nationale de réconciliation interlibyenne. Elle était prévue le 28 avril. Report en raison des divergences tendances entre les leaders libyens. Nous parlerons également de cette première sortie officielle pour le nouveau président sénégalais depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye, qui a rencontré les chefs religieux. C'est un rituel, en quelque sorte, au Sénégal pour tout chef de l'État. Et puis enfin, 54 millionnaires dans le monde sont nés en Afrique, mais plus de la moitié ont quitté le continent. C'est une étude qui nous en parle. En tête des pays africains qui comptent les plus grosses fortunes, on dénombre l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et enfin le Maroc.
Eh bien, merci beaucoup Sylvie Buret. On vous retrouve donc dans 30 minutes pour la première édition d'Afrique Soir. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. N'oubliez pas notre site internet, évidemment www.rfi.fr. Les élections législatives en Inde qui sont à la une, qui se dérouleront dans les prochains jours. Notre envoyé spécial Claire Brodeur sur place.